On va ouvrir la discussion. Peut-être pour l'ouvrir, j'ai une question qui est peut-être un peu basse, mais au fond, sauf erreur de ma part, Connery, dans votre exposé, vous n'avez à aucun moment prononcé l'expression croissance verte. Est-ce que pour vous c'est une expression qui a du sens ? C'est une façon de scier la branche sur laquelle on n'est même pas assis.
Évidemment, mais le professeur Henri a dit que les humains ne s'intéressaient qu'au temps.
Évidemment, les lectures sont limitées, mais dans aucune lecture que j'ai faite, je n'ai vu une. Je ne dis pas une définition, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais une ouverture d'une perspective précise en matière de croissance verte. Il y a des auteurs pour qui la croissance verte comporte tous les biocarburants, ce qui est, à mon sens, un très gros contresens. Il y en a d'autres pour qui la simple perspective d'une croissance est la condamnation d'un avenir durable, qu'il n'y a d'avenir que dans la décroissance de nos activités et de nos besoins. Qu'est-ce que ce serait le contenu d'une croissance verte ? Non, je voulais. Ben, pour reprendre, Nick Stern, que vous avez cité, il croit à la. Comment dirais-je ? À la coexistence possible de trois choses. Une stabilisation du changement climatique, une réduction beaucoup plus significative que ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent de la pauvreté extrême, et une croissance sélective, où inévitablement certains secteurs devraient absolument décroître, ne fût-ce que parce que il serait fondamental de diminuer fortement les consommations d'énergie, et d'autres, au contraire, devraient croître pour compenser ou orienter les utilisations dans un autre sens, les modes de vie dans un autre sens. Je pense que on a parlé de rien tant qu'on n'a pas, précisé ce que l'on voit comme croissance, ce que l'on voit comme décroissance, de telle manière à avoir un ensemble qui soit cohérent avec l'objectif poursuivi.
Des questions, des remarques ou des propositions, ce qui serait en même temps, pour ceux qui prennent la parole, l'occasion de se présenter. Il n'y a pas de micro baladeur, je pense, donc il faut. La petite est bonne. Vincent Renard.
Oui, juste une question très, très concrète dans la mise en œuvre. Tu as parlé, Claude, du casse les doigts avec des dispositifs à la fois de gouvernance sophistiquée, du fonctionnement des marchés et d'un bras musclé qui encadre le fonctionnement des marchés. Et la question est une question d'urgence. On voit des résultats de Cancun qui ne sont pas totalement décisifs sur le plan de l'organisation de la mise en œuvre. On se donne rendez-vous à Durban ou on se donnera rendez-vous pour plus tard. Dans le même temps, la maison, je ne sais pas si elle brûle, mais enfin, il y a des problèmes croissants et urgents. Est-ce que c'est en ligne avec l'évolution de mécanismes de gouvernance mondiale, y compris des mécanismes de marché, avec des bras très musclés pour les encadrer et les développer dans le sens suédois qu'il disait ? Le problème de rythme comparé des deux.
En ce qui concerne la Suède, dans le cadre national suédois, évidemment avec toute la cohésion que cela signifie, l'organisation du pouvoir que ça signifie, le rythme qui est suivi est à peu près le rythme que les climatologues considèrent comme celui des transformations nécessaires pour ne pas aller au-delà des 3-4, enfin, jusqu'à 3-4 degrés ou au-delà. Donc, dans un cadre national, avec tout ce que ça signifie d'instruments de gouvernance disponibles, ça paraît possible. Dans un cadre d'autres nations, avant même de parler du cadre national, je crois que c'est tout à fait utopique. Les États-Unis sont dans un tel état de division contre eux-mêmes, de sentiments de décadence vis-à-vis desquels ils se crispent en essayant de réaffirmer leur exceptionnalisme, de décadence matérielle aussi. L'état des infrastructures matérielles aux États-Unis est absolument effarant. S'il n'y a pas un électrochoc, je ne les vois pas se mettre sur, avoir le ressort. Les institutions sont totalement inadaptées à un changement véritable. Il faut se souvenir que les pères fondateurs avaient lutté contre le roi d'Angleterre. Ils n'avaient pas droit à la maison. Par conséquent, le président n'a pas beaucoup de pouvoir en politique intérieure. Les pères fondateurs n'aimaient pas les lois parce que les lois, c'est quelque chose qui limite la liberté individuelle. Le résultat, c'est qu'il est difficile de faire voter une loi un peu significative au Congrès des États-Unis. Sans un électrochoc qui n'a rien inspiré. Même sur le plan national d'un pays qui a quand même des institutions. En Chine, l'opposition à toute restriction, à une croissance, dans le pire sens du terme, de la part des pouvoirs régionaux, c'est-à-dire d'une espèce de mafia composée des membres du Parti communiste et des entrepreneurs régionaux, est telle que, nous l'avons entendu une fois dans un dîner à l'école polytechnique avec le Premier ministre chinois, il n'y a rien à faire pour les faire changer. Là aussi, tant qu'il n'y aura pas un électrochoc, on ne voit pas pourquoi ça changerait. Et bien entendu, si ces pays ne sont pas à l'intérieur décidés à faire une mutation suffisante, ils ne pousseront pas à l'échelle internationale à des mutations d'institutions internationales qui iraient dans le bon sens. Certains disent que Cancun est un échec pire que Copenhague, parce qu'ils ont complètement évacué tous les problèmes, dont on a l'impression qu'ils étaient sur le chemin de les attaquer. Évidemment, c'est pas très positif ma réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un électrochoc?
Vous nous avez dit quoi, ni besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour passer par les...
D'accord. Alors, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un électrochoc? Quand on suit les enquêtes du Pew Center, le grand centre d'enquête d'Amérique, d'opinion américaine, sur le climat, clairement, c'est... on sent rien, on voit rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a un problème. Bon, supposons par exemple que l'année prochaine, il y ait un très 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 méchant cyclone, et que ce cyclone balaye Houston comme il a balayé la Nouvelle-Orléans, ça on peut considérer que c'est un électrochoc. Il y a la forme plus longue de l'électrochoc qui est la désertification croissante du sud-ouest américain. J'ai visité le Monument Valley l'année dernière. C'est idiot aussi d'aller voir des films, mais vraiment, ça fait quelque chose. Nous avons eu comme guide, parce qu'il faut avoir un guide, un Indien Navajo, père de famille, soixantaine d'années, qui a longuement vécu, longuement réfléchi, très taciturne, qui a commencé tout à coup à s'exprimer quand il était question de changement climatique. Pour nous dire, au rythme où ça va, on devra quitter la vallée dans 5 ou 6 ans. Pour lui, la catastrophe est là. En revanche, pour un professeur de high school mormon de Salt Lake City, avec qui on discutait, parce qu'on discute avec tout le monde dans l'Utah, les mormons, ils discutent parce que de toute façon, au bout de la discussion, il y a peut-être la conversion. Ils sont très très gentils. Il m'a exactement demandé ce que je faisais. Il m'a raconté que j'enseignais ceci et cela à Columbia. Et il a bien senti que j'avais un concernement à propos du changement climatique. Professeur Henri, souvenez-vous, à la fin du déluge. Dieu a été atterré, c'est-à-dire par le dommage qu'il avait fait lui-même à sa création. Et il a dit à Noah, rassure-toi, ça n'arrivera plus jamais. Alors pourquoi avez-vous peur en fait, c'est pas drôle, hein. Ça montre aussi, sur Broadway. Broadway, tout le monde donne des papiers pour le cinéma du coin, pour l'église luthérienne, enfin peu importe. Je repère une dame en noir, un peu timide, dans un coin qui distribue un papier. Je vais vers elle, bonjour mon fils. Il me donne son papier, lisez bien, votre salut en dépend. Qu'est-ce que c'était ? Le changement climatique, c'est la meilleure nouvelle que nous puissions avoir. Il est clair que ça annonce le retour du Messie et que nous serons sauvés, nous qui croyons. Le vice-président de la Fédération des Églises Baptistes, c'est pour voir la division de l'Amérique. Et quand l'Amérique est divisée, elle ne peut rien faire. En France, il peut y avoir un président de la République qui fasse le contraire de ce que les Français veulent et le fasse. En Amérique, c'est pas possible. Si c'est divisé, on ne fait rien. Ben, ce vice-président me disait, assez loin du professeur Mormon, la création est en cause. Et c'est notre faute. Il faut que nous fassions quelque chose. Regardez le journal que nous avons, nous venons de sortir, le journal de notre fédération. Effectivement, une très belle photo avec un magnifique 4x4. Enfin, le SUV, comme on dit aux États-Unis. Enfin, le gros machin qui bouffe l'essence comme c'est pas possible. Et derrière, il y avait des nuages noirs et une silhouette. C'est pas difficile de deviner ce que c'était que cette silhouette. Et la légende, c'était « Would Jesus drive such a car ?» Ça vaut tous les discours et tous les changements de prix. Mais qui va l'emporter? Combien de temps ça va prendre? On régresse pour l'instant plutôt que d'avancer. Parce que les gens des types partis, hein, le changement climatique, mais c'est aussi une manifestation du diable autant que la réforme de la santé. Et en Chine, c'est pire, c'est lourd. Hein, en Chine, évidemment, ils commencent à constater que le fleuve jaune n'a plus d'eau. Il n'a plus d'eau parce que les glaciers ont déjà trop fondu et il n'est plus alimenté correctement. Sauf à certains moments, et ça fait des inondations. Et puis il n'a plus d'eau parce qu'ils ont mis des systèmes d'irrigation dans des régions désertiques, ils ont planté des usines, évidemment ça mange l'eau. Bien, il n'y en a plus. Et ils vont avoir un problème énorme. Est-ce que ça va changer? Peut-être. Bon, c'est sur ce peut-être qu'il faut espérer.
Une intervention?
Oui, Eric Fresslinard.
Eric Fresslinard, je suis préfet de la Haute-Saône. Moi, je ne vais pas parler de la France-Comté tout à l'heure.
Je vais passer un bon moment.
Est-ce qu'on est. Enfin, moi, j'ai peur qu'on soit victime en ce moment de la vertu. Parce que on nous a parlé de la Suède. Il y a un cas encore plus caricatural, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux ces dernières semaines en France, le prince de Monaco, qui expliquait comment son État et sa principauté faisaient beaucoup pour le développement durable. On sait tous, vous venez d'ailleurs de me rappeler, que ce n'est pas en réglant le problème de la Suède, de Monaco, voire de l'Europe, qu'on réglera le problème de l'avenir, c'est en s'attaquant, entre guillemets, aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde. Mais ces pays vertueux, en montant le niveau de l'excellence à atteindre, ne font-ils pas encore plus peur à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis? Autrement dit, le fait de s'approcher de la vertu de 50 à 70% dans ces pays ne réduit-il pas encore plus la possibilité pour ces immenses continents d'avancer? Or, je me dis que la Suède et Monaco ne feraient rien en matière de développement durable, continueraient à polluer, mais nous obtiendrions que la Chine bouge 1% de ses comportements, nous sauverions peut-être la planète. Donc je me demande si le vice, en ce moment, n'est pas encouragé par la vertu.
Ça, c'est un peu juste.
probablement les Américains, la masse des Américains, certainement la quasi-totalité des Chinois, ils ne savent pas que la Suède existe. Par conséquent, ça ne peut pas leur faire. Ce que fait la Suède n'est pas vertueux. Elle n'a pas de vertu, elle n'a pas d'idéologie en vérité en la matière. Elle n'est pas guidée par un parti vert important, elle est guidée par une coalition conservatrice libérale. Elle en tire des bénéfices économiques. Alors vous dites, est-ce qu'elle ne va pas en faire trop et en faisant trop, en faire peur aux autres? Si elle fait ce qu'elle a l'intention de faire, il semble qu'elle soit sur le chemin de le réaliser à échéance 2020. Elle aura juste ce fait, ce que nous devrions faire tous, si nous voulons que nos petits-enfants aient une planète qui va.
Une ou deux autres interventions, oui.
J'espère que je vais avec des énormités, j'espère que ça va aller jusqu'au bout de ma question. Je reviens de ma copine. Parce que voilà, si on prend le recul au fond depuis les années 60, il me semble que un des points les plus centraux dans les évolutions au cours des dernières décennies, ça a été effectivement le développement des échanges. Et en fait, en gros, quand même, on a vécu pendant des décennies sur Ricardo. On produit le fait que les échanges sont effectivement ce qui permet le développement. On a vu apparaître, il y a quelques décennies aussi, mais de façon assez minime, mais enfin quand même, la question des externalités. Et au fond, ce qu'on voit aujourd'hui, Philippe parlait à l'instant de l'eurovignette, on parlait de l'intermodalité, des transferts de dons. Au fond, ce qu'on a cherché à faire, c'est effectivement à corriger ces externalités à travers un certain nombre d'outils, internaliser les externalités. Quand on regarde en même temps ce qui se passe depuis peut-être la dernière décennie où les choses se sont énormément accélérées, on a vu apparaître des pays émergents qui, au fond, continuaient complètement dans la lignée de Ricardo, c'est-à-dire qui avait une compétitivité sociale notamment, tout à fait extraordinaire, et qui a fait que les échanges ont continué de s'accélérer de façon extraordinaire, et qu'au fond, tous nos produits aujourd'hui sont des petits morceaux de produits absolument partout, avec des échanges qui font dans tous les sens, et où on voit, finalement, il y a juste un petit habillage de fin de partout, mais finalement, tout vient partout. Alors, moi, une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de développement vert, etc. Et il y a très peu, finalement, enfin, je n'ai peut-être pas lu suffisamment, et peut-être le débat ici, ce que je ne vois pas, celui de, finalement, d'une nouvelle forme de compétitivité, de la contradiction, finalement, entre ce que l'on produit, ce qu'on cherche, qui est effectivement une croissance verte, et le fait qu'on continue quand même à chercher une compétitivité dont on n'arrive pas à recréer une nouvelle forme de compétitivité qui intègre les externalités de façon convenable. Parce que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le grand développement des échanges reste extrêmement puissant, et les outils pour combattre le problème des externalités, au fond, je ne vois pas des éléments de mesure précis, de réflexion précise qui indique qu'en quoi que ce soit ce que nous faisons est à l'échelle du problème que l'on cherche à combattre.
Deux ou trois questions que vous posez, moi je crois des questions intéressantes. La première, monsieur le préfet, c'est, cher camarade préfet, je ne sais pas comment on doit dire, le petit poids mort ici. La première, elle est de s'interroger sur l'impact, effectivement, de petits pays innovants. Mais quand on regarde l'histoire des innovations, on s'aperçoit qu'entre le moment où l'idée a été émise, où une technique a été émise, et le moment où elle s'est diffusée, il se passait au XVIIIe siècle, au bon siècle, au début des années 50, une trentaine d'années, aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais il y a toujours un lieu innovant, une puissance innovante, un homme innovant, et finalement, c'est à partir de là que les choses peuvent se propager. On peut comprendre que la Suède, ou les pays qui sont assez proches des pôles, hein, puissent se sentir plus concernés et plus menacés par les changements climatiques. Hein. La deuxième question que vous posez, qu'on peut se poser sur un débat sur croissance verte, c'est de savoir si l'économie, aujourd'hui, peut repartir à partir de techniques, à partir de produits ou d'outils dont l'impact est infiniment moins prégnant, moins marquant sur le milieu. Alors ça, on peut dire que c'est déjà des choses que nous voyons sous nos yeux depuis une bonne quinzaine d'années. Toutes les nouvelles normes de poids lourd en Europe, hein, on va bientôt passer à l'Euro 6. On réduit considérablement les émissions de particules et réduit également donc l'impact je dirais de la pollution sur l'environnement. Et la troisième question qui est posée par Marianne, c'est de se demander si aujourd'hui on peut inverser le phénomène de globalisation qui bouscule tout depuis maintenant une quarantaine d'années. Hein. Est-ce que demain on peut relocaliser des productions, est-ce qu'on peut les relocaliser dans des sous-ensembles géographiques plus étroits? Est-ce qu'on peut faire un aménagement économique de la planète qui soit un peu différent de ce qu'on a vu et qui a été quand même fondé sur une approche très libérale et sur un souci renforcer les profits des grandes entreprises. Donc, voilà les questions qui se posent. Simplement, elles sont très difficiles à résoudre.
Oui. Ricardo avait compris que l'échange le plus efficace, c'est celui entre des nations dont le stade de développement économique n'est pas producteur. C'est dans Ricardo. Et effectivement, le grand marché européen a été un élément de prospérité économique, en même temps qu'un moteur politique au niveau de l'Union européenne. Il n'est démontré nulle part que ceci est encore vrai entre des participants au niveau de développement trop différent. Par exemple, les ravages en Afrique noire de la mise en œuvre du libre-échange selon le consensus de Washington sont épouvantables. Elles détruisent des agricultures et puis quand c'est détruit, c'est détruit et on dépend à ce moment-là complètement de ce qui vient de l'extérieur. Quant à la Chine, elle est prise au piège à l'heure actuelle de sa dépendance sur les exportations. Évidemment, nous sommes aussi pris, nous avons bien senti que nous sommes pris au piège. Et c'était sous-jacent à votre remarque. Mais la Chine est prise au piège. Elle n'arrive pas à freiner ce moteur de son développement pour passer sur un moteur qui soit davantage la consommation intérieure. La part des salaires en Chine est la plus basse dans le PIB de toutes les nations développées ou émergentes. Elle ne dépasse pas 35%. Quand je dis les salaires, c'est les revenus des particuliers. Les moteurs sont en quelque sorte les drogues. Le commerce extérieur et la surplus, la formation de capital fixe, qui souvent ne sert à rien. C'est du keynésianisme, comme Keynes le décrivait quand il disait « Si vous vraiment, vraiment vous êtes en dépression, à ce moment-là, creusez des trous et bouchez-les. » Il y a des autoroutes qui ne servent à rien. Ils ne mènent nulle part. Il y a une multiplication
d'usines métallurgiques ou de cimenteries construites dans les conditions les plus polluantes et fonctionnant dans les conditions les plus polluantes, qui anime quoi? Qui anime une bulle immobilière, une frénésie de construction et une bulle immobilière. La Chine connaît l'inflation pour l'instant. Et le gouvernement chinois vient de décider de ne pas diminuer les autorisations de crédit des banques, parce que ça se fait comme ça en Chine, l'année prochaine. Autrement dit, entretenir l'inflation, parce qu'ils n'osent pas ralentir les moteurs aussi artificiels qu'ils soient. Ça ne tiendra pas éternellement, pas plus que de tenir éternellement le déficit américain, que ce soit le déficit intérieur ou le déficit de la balance. Pas possible. Comme dit mon collègue Stiglitz, ce qui n'est pas soutenable, ben finalement, n'est pas soutenu. Bon, c'est bon. Le commerce international, c'est très, très ambigu. Aussi clair c'est quand c'est le commerce entre les pays du monde en développement économique, aussi compliqué et dangereux ça peut être dans d'autres conditions.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention?
Non.
Oui.
Une dernière.
Si vous m'entendez, je suis en délégué régional à la Poste en Auvergne. J'aurais une question par rapport à la Suède. Vous avez parlé de politique, vous avez parlé de régulation, de politique, de choix. Vous n'avez absolument pas parlé de l'opinion publique, on va dire de la volonté collective d'agir. Je suppose que les politiques, quelle que soit la coalition en place, n'a pas décidé, régulé, sans un échange avec sa population. Et qu'est-ce qui existait dans l'opinion publique qui fait que ce pays tout entier s'est mobilisé dans un temps relativement court pour se mobiliser dans son économie, son environnement, au-delà de son intérêt propre? Je pense qu'ils sont comme nous, Européens. Est-ce que c'est l'accident écologique a déjà eu lieu chez eux, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils sont proches du pôle, qu'ils ont eu les pluies acides? Ou est-ce que ça va au-delà de ça, et est-ce que ça va le transmettre aux générations qui vont?
C'est vrai que les pluies acides ont joué un rôle dans les années 70-80. Elles ont joué un rôle parce que ça a été très présent pour eux. Les forêts suédoises sont des forêts de conifères qui changent leurs aiguilles en moyenne tous les 5 ans. Donc ça se charge de la pollution. Et ça atteint l'arbre lui-même. Les chênes, ils se nettoient chaque année, d'une certaine manière. Donc, en Allemagne aussi, ils ont parlé de Waldsterben en Allemagne, c'était très présent, très fort. Et puis, d'autre part, la Suède est parsemée de lacs. Et ces lacs ont naturellement un pH assez bas, donc une acidité assez élevée. Si vous en rajoutez un peu, c'est la mort. Il y a la mort des poissons. Or, enfin, il faut voir comment les gens vivent. Les Suédois ont le plus fort taux de résidence secondaire en Europe après la France. Et par conséquent, Stockholm, Göteborg, qu'est-ce qu'on appelle dimanche, on va dans la forêt, au bord du lac, pêcher. Fini. Ça a joué. C'est vrai. Ça a créé la conscience. Et le gouvernement suédois, c'était donc dans les années 80, le gouvernement suédois social-démocrate a dit: on va faire un effort national. Les entreprises vont mieux se comporter. Les particuliers vont être conscients de la responsabilité écologique. Et puis on va aussi prendre des décrets limitant les autorisations de pollution par tel ou tel type d'entreprise. Et les forêts continuent à mourir, et les lacs à ne plus avoir de poissons. Un groupe d'économistes a suggéré que peut-être qu'il faudrait mettre un prix sur l'évolution qui causait tout cela. Et en mettant un prix suffisamment fort, on en éliminerait une grande partie. Horreur, ont répondu les sociodémocrates et les verts, on ne met pas de prix sur la nature. Et les élections de 88 approchaient. Et ça devenait vraiment un thème central. Donc il se l'était approprié. Parce que c'était aussi sous-jacent à notre question. Il s'était approprié, ça devenait un thème central. Et les Verts ont eu un coup de génie. Ils ont un jour tenu une conférence de presse dans le cadre de la campagne en disant Nous nous sommes trompés. Avec tous ces appels à la bonne volonté, avec toutes ces règles administratives, on n'y arrive pas, c'est clair. Les économistes ont raison. Mais on ne va pas, même si on met des prix, des taxes élevées, on ne va pas diminuer, on va supprimer toute pollution, ce n'est pas possible. Et donc ils vont rester. Donc ça va rapporter de l'argent à l'État. Cet argent doit revenir au peuple. Pas un seul courant supplémentaire dans le budget de l'État. Comment va-t-il revenir au peuple? Ben là, les économistes nous disent aussi des choses raisonnables. On dit des dirigeants verts. Il y a des impôts en Suède qui sont vraiment très très lourds et qui diminuent l'activité. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est vraiment trop lourd. Même l'impôt sur les bénéfices des sociétés, il est trop lourd. On aurait intérêt à les diminuer. Les Suédois seraient plus heureux, l'activité se développerait davantage. Et on peut faire la balance. On fait des impôts verts, ils diminuent fortement les pollutions, mais en reste, et on a de l'argent. Avec cet argent, on diminue les impôts qui sont contraires à la bonne activité économique du pays. Ça, c'est des petits dégâts. C'est ce que un de mes collègues anglais, qui était à l'époque conseiller de Mme Thatcher, a appelé le double dividende. On diminue les pollutions, et l'argent sert à quoi? À diminuer le poids qui pèse sur les contribuables, en augmentant l'activité économique. Ça leur a donné confiance. Il faut dire qu'ils ont été élus. Les sociaux-démocrates, ils ont vu ça, ils ont immédiatement sauté dans le train. Ils ont eu la majorité avec les Verts, ils ont fait un gouvernement rouge-vert, qui a strictement, pas tous les jours que ça arrive, appliqué les promesses faites, passé la loi dont je vous ai donné des exemples, et cette loi a donné une immense confiance aux Suédois, à la fois dans les instruments économiques et dans la possibilité d'atteindre leurs objectifs écologiques. À un moment donné, cette confiance a vacillé, parce qu'il y a des gens qui sont partis du fait de certains objectifs écologiques, en particulier sur, non pas le vaisseau bleu, mais les proposés nitrés. Ils ont compris qu'il ne fallait pas être des ayatollahs de l'impôt vert, donc ils ont aménagé certains aspects, ils ont arrêté cette fuite, c'est reparti, ils ont eu une crise économique grave qui n'avait rien à voir, c'était une crise bancaire, qu'ils ont surmontée, qui ça leur a appris à faire face aux crises qui sont venues après, et ils ont taux de croissance. Deuxième taux de croissance que vous avez en Europe. Ce ne sont pas des croisés qui oublient que le confort de l'activité économique, le confort personnel est quelque chose qu'ils apprécient. Non, mais autrement. Ils ont voté, l'actuel gouvernement libéral conservateur, ils ont voté un amendement à la fameuse loi que je vous ai indiquée tout à l'heure pour faire entrer dedans une taxe sur le CO2. En France, nous avons mégoté autour de 20 euros la tonne pour finalement rien faire. Leur taxe est à 106 euros la tonne. Ça ne les empêche pas de bien vivre. C'est un peu Cyrano, hein. Parce qu'après tout, encore une fois, la contribution du CO2 au problème de la planète. Mais c'est encore plus gros si c'est inutile. Thank you.